Voix du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, on le sait, depuis une dizaine d'années, les rapports scientifiques s'accumulent pour le confirmer. Nous assistons à une véritable crise d'extinction de la diversité biologique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et alors, me direz-vous, ce n'est pas quelques plantes et quelques animaux en moins qui vont changer notre quotidien? Eh bien si, figurez-vous, car où que vous soyez sur la planète, vous dépendez de cette biodiversité qui vous garantit de l'eau, de l'air, des aliments et des médicaments. Et ce n'est pas parce que c'est gratuit que tout est permis.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et président du Muséum français d'histoire naturelle. Alors la 12e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique vient de se terminer en Corée du Sud. 194 pays étaient invités, 156 y ont assisté. Personne n'en parle, à peine une ligne dans quelques journaux. En fait, ça n'intéresse qu'une poignée de scientifiques.
Bien malheureusement. Et pourtant, on se bat sur tous les fronts depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, on est coincé sur cette histoire de réflexion sur le dérèglement climatique qui attire beaucoup plus l'attention que les questions d'érosion de la biodiversité. Il y a des relations entre les deux. Et on voudrait bien justement faire de la COP21 l'an prochain en France un salon sur, bien sûr, le dérèglement climatique, mais aussi sur les interrelations avec la biodiversité. Parce qu'en fait, ce climat qui se dérègle, il joue bien sûr sur la biodiversité, comme la biodiversité joue aussi sur le climat, ça marche dans les deux sens. Et les gens ont beaucoup plus peur à l'heure actuelle du dérèglement climatique que de perte de la diversité biologique. Et ça, c'est un vrai message qu'il faut qu'on fasse passer au niveau du public. Je prends souvent l'exemple, moi, d'un de mes chouchous, qui était le dauphin du Yangtze-Kiang, le BIG, pour lequel l'agence Chine Nouvelle annonce en 2007 la disparition définitive. Je suis allé en 2011, on a fait, parce qu'en fait, il répondait à des faisceaux d'ondes sonar et personne n'a répondu. Et le dernier est naturalisé. En plus, on l'a raté. En plus, le taxidermiste a raté le dernier dauphin du Yangtze-Kiang. Il fallait quand même le faire, hein. Ils sont partis dans l'indifférence générale et on me dit, bon, on s'en fiche de ton dauphin. De toute façon, on savait même pas qu'il existait à Paris. Ce qu'il y a, c'est que ce dauphin vivait dans une eau tellement chargée en particules que quand on met son bras dans l'eau, on voit plus ses doigts. Donc il avait un fabuleux système de sonar, probablement le meilleur qui ait jamais été inventé par cette diversité biologique. Et on l'a perdu dans l'indifférence générale. Et je prends celui-là parce qu'il est emblématique, bien sûr. Alors on vient de retrouver un autre, nous, en Papouasie, on a des images de quelque chose qui ressemble beaucoup au dauphin du Yangtze-Kiang. Ce sera pas la même espèce, mais on peut espérer en retrouver un autre. C'est pas pour ça qu'on peut excuser ceci. Juste pour vous montrer, en fait, qu'on est sur un système aujourd'hui. Alors, il faut bien expliquer aux gens que ce qui est démontré là, après la conférence de Corée, le travail du WWF, c'est pas des disparitions d'espèces, hein. C'est une disparition, c'est un effondrement du nombre d'individus des populations. Il y a des espèces qui disparaissent aussi, bien sûr, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence parce que moi qui suis un marin, par exemple, hein, si je regarde depuis 4 siècles, on a 18 espèces marines disparues. Ce qui peut paraître ridicule. Quand je dis ça à un ministre, on me dit, bah, écoutez, c'est pas grave. D'abord, pour un biologiste marin, il faut être sacrément présomptueux pour dire qu'une espèce a disparu de l'océan. On ne sait jamais s'il n'en reste pas un individu caché quelque part. Ce qui veut dire que ceci n'est pas très important. C'est vraiment l'effondrement des populations qui est très inquiétante.
C'est en termes de quantité, en fait.
Voilà, en quantité de plantes, d'animaux, de champignons, de micro-organismes. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et nous dire 50%, la moitié est partie sur 45 ans, c'est absolument effrayant.
Alors nous appellerons tout à l'heure Renaud Lapeyre qui est chercheur à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, qui a assisté à cette conférence en Corée du Sud. Il nous racontera ce qui s'y est passé et si des décisions importantes ont été prises. Mais tout de suite, pour bien comprendre l'ampleur de cette disparition dont vous parlez, je vous propose d'accueillir Christophe Roturier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur scientifique du WWF pour la France. Alors votre ONG, le Fonds Mondial pour la Nature, vient de publier la 10e édition du rapport Planète Vivante qui dresse un constat catastrophique, hein, Gilles Boeuf l'évoquait. Plus de la moitié des espèces sauvages, terrestres ou marines ont disparu depuis les années 70. Alors là, c'est pareil, Gilles Boeuf disait, le problème, c'est pas une question d'espèces. Et vous, vous dites, plus de la moitié des espèces ont disparu. Alors, expliquez-nous.
Effectivement, le rapport dresse un constat à la fois clair et alarmant, c'est que 52% des populations, effectivement, c'est bien des populations, sont en déclin. Alors, c'est pas forcément des disparitions d'espèces, c'est un déclin des populations que nous suivons depuis une quarantaine d'années. Nous suivons à peu près 10 000 populations de vertébrés. Donc, les vertébrés, donc, sont les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons. Et ce qui est inquiétant dans ce phénomène, c'est que ces disparitions, on a essayé d'analyser le pourquoi de ce déclin. Pardon, j'ai dit disparition, c'est bien un déclin. Donc, les analyses autour du déclin montrent que majoritairement les raisons sont liées à l'exploitation excessive de ces espèces, donc par exemple la déforestation, on coupe du bois, on surpêche, on pêche beaucoup plus que ce que les océans peuvent fournir, donc exploitation de ces espèces, mais aussi modification de leur milieu, ou bien dégradation de leur milieu. Et ça, on retrouve directement donc l'impact de l'homme sur l'environnement. Et c'est ce que montre aussi le rapport avec le deuxième grand indicateur qui est fourni dans cette étude, qui est l'empreinte écologique. Donc l'empreinte écologique, dans notre jargon, en fait, c'est une estimation, un indicateur qui estime l'impact de l'homme sur l'environnement. Et en fait, la réduction des populations, le déclin de des populations dont on vient de parler, et l'augmentation de l'empreinte écologique, c'est en fait deux phénomènes qui sont très liés.
Oui, on comprend bien que si l'un s'étend, l'autre a moins de place. Et alors, c'est pas de façon homogène, hein, parce que là, vous parlez donc à l'échelle de la planète, mais il y a des zones, évidemment, qui sont plus concernées que d'autres.
Oui, alors c'est pas de façon homogène à la fois par rapport à la géographie, et c'est pas homogène non plus par rapport au niveau de développement des pays. Alors, au niveau de la géographie, on constate que le déclin est plus important en Amérique du Sud. On est à moins 83% par rapport à moins 52 en moyenne. Donc vous voyez que c'est quand même très très important. Et c'est plus important également dans le sud de l'Asie et en Océanie. On est à moins 63%. Ce qui est aussi un phénomène intéressant à analyser, c'est le fait que dans les pays à haut revenu, on constate plutôt une amélioration de la biodiversité. On est à plus 10% en moyenne.
Non, mais on triche, non? Parce qu'on exporte un petit peu notre impact.
Alors
dans
exactement,
les pays en développement, justement.
C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que ce plus 10%, en fait, on peut l'expliquer en gros par trois raisons. La première, c'est que dans les pays développés, disons, la dégradation de l'environnement, elle s'est faite il y a assez longtemps. Donc aujourd'hui, on est avec une nature qui a quand même été beaucoup réduite par rapport à ce qu'elle était, par exemple au Moyen-Âge, hein, où la France était couverte de forêts. Le deuxième point important, c'est que les pays développés ont les moyens de mieux conserver et de mieux restaurer leur milieu. Et le troisième phénomène, c'est celui que vous mentionniez, c'est que c'est relativement invisible pour nous au quotidien, mais on a tendance aussi à exporter la perte de biodiversité de par nos modes de consommation.
Alors, donnez-nous un exemple concret.
Oui, si je prends un exemple, en Amérique du Sud, qui est un des lieux les plus impactés par le phénomène dont on a parlé, la culture du soja, par exemple, est une culture qui se fait massivement au détriment de la forêt. Or, cette culture de soja, elle est liée directement à la consommation de viande, puisque ce soja sert à alimenter les élevages de poulets, de porcs, de bovins en Europe, mais aussi en Chine. Donc on voit bien directement le lien entre nos modes de consommation, nos modes de vie, et l'impact sur la biodiversité. Mais là, du coup, ça se fait pas chez nous directement, mais ça se fait en Amérique du Sud.
Voilà, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Once my love stood still like a stagnant well for so long you could hear the song of spiders strumming fibers calling it to the web. My river sits in ebb, the little ones lean over. Laughter echoes, bounce down the dock until it hits the floor. Singing, come on baby, come on child, cold. You flow like a seed of wonder, faith of mustard. Oh yeah, oh yeah. Spring and prime the
milk of mother and wet my riverbed. Put a strong up on sit the red. The story won't be.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la disparition de la biodiversité sur notre planète avec le biologiste Gilles Boeuf et Christophe Roturier, directeur scientifique du WWF France. Alors quand on entend le tableau dramatique que vous venez de dresser tous les deux, on se dit que c'est inquiétant, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment important, Gilles Boeuf, comparé à la crise économique qui secoue l'Europe, à la pauvreté ou à la faim dans le monde? On a toujours l'impression que la biodiversité, c'est le dernier cadet de nos soucis.
C'est parce que les gens n'ont pas conscience du problème. Je vais prendre un seul exemple pour vous l'illustrer. En 2007, sur le riz en Chine, un virus s'attaque aux populations de riz. Ce sont des famines terribles. On va devoir tester 6350 variétés de riz pour en trouver une qui résiste au virus et qui fait aujourd'hui 100 000 km² de culture de riz en Asie. Et c'est là que la biodiversité est fondamentale, même au sein d'une espèce. À quoi elle sert finalement? Elle sert quelque part au fait que si le monde ne changeait jamais, après tout, ça serait pas très important. Mais ça change en permanence. Et l'humain est en train, en permanence, de créer des conditions de changement beaucoup plus grandes qu'auparavant. Et bien, quelque part, dans une vallée des Andes, ou une pleine perdue de l'Himalaya, on a la réponse au changement que l'on va vivre. Et pour ça, il faut aller chercher la variété, l'espèce, qui permettra de répondre à cette agression. Dans les temps compatibles avec, bien sûr, une survie de l'humanité. Donc c'est là que cette diversité, elle est vitale. Et enfin, je l'ai souvent raconté chez vous, vous savez très bien, un corps humain, là on est quatre dans cette pièce, on a au moins 100 fois plus de bactéries sur nous et dans nous que de cellules humaines. Chaque corps humain est une ode à la diversité biologique. Et pour terminer sur ce registre-là, on connaît à peu près 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940, toutes liées soit à des pertes de diversité biologique, soit à des questions de dérèglement climatique. Ce qui veut dire que l'humain, baigné intimement dans cette diversité, ne peut pas s'en passer. On doit faire avec.
Et pour nous soigner, justement, pharmacie,
alors
c'est
après,
la biodiversité.
On peut chercher dans cette diversité des médicaments. Moi qui suis un marin, 25 000 molécules sortent de l'océan aujourd'hui. Je raconte souvent l'histoire de 13 prix Nobel de médecine à qui, grâce à des modèles qu'on aurait balayés auparavant. Qui serait allé, aurait voulu conserver il y a 15 ans une étoile de mer, par exemple, ou bien un oursin. Le plus bel exemple, c'est une bestiole qui vit un mammifère en Afrique de l'Est, qui s'appelle le rat taupe nu. Mais moche comme c'est pas possible, ce truc. On l'aurait écrasé, on l'aurait jeté. Il vit dans des terriers, il n'intéresse personne, il a pas de poils. Et c'est un rongeur qui vit plus de 50 ans. On commence à le regarder, il ne développe jamais de cancer. C'est une fabuleuse espèce d'étude pour comprendre les phénomènes de cancérisation ou pas. On vient de trouver un nouveau rongeur en ce moment encore là, encore qui est encore capable de vivre plus longtemps. On a une petite palourde marine récemment qui a vécu 500 années. Donc c'est là qu'il faut chercher ces étrangetés qui vont nous servir à comprendre les mécanismes naturels qui sont fondamentaux, qui sont toujours vrais dans tout l'ensemble de la biologie.
Mais quand on vous écoute bien, vous dites par exemple, on a découvert une nouvelle espèce, etc. Donc en fait, quand on parle de perte de biodiversité, qu'est-ce qu'on sait? Parce que c'est très difficile. Bon, à l'échelle de l'océan, on connaît à peine 3% de la biodiversité. Et même à l'échelle terrestre. Alors, donc, quand on dit qu'on perd cette biodiversité et on découvre de nouvelles espèces, on a du mal à comprendre.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en aucun cas, il ne faut assimiler la biodiversité à un catalogue d'espèces. C'est surtout pas ça. Ça, pour moi, je le crie partout. C'est pas ça du tout. La biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, virus, bactéries, protozoaires, champignons, plantes et animaux, ont établi entre eux et avec leur environnement. Avec le monde minéral, on va arriver à peu près à 5000 espèces de minéraux connus. Là, on a 4990. Les deux tiers des minéraux de cette planète n'existeraient pas sans le vivant. Et si on est des phénomènes de classification, de bioclassification, avec les bactéries ou avec des vertébrés, on a tous des os, sinon on n'entendrait pas de boue, nous, ici, dans cette pièce. Ça veut dire que c'est tout cet ensemble qu'il faut considérer. Et c'est aussi, bien sûr, tout le pool génétique compris, effectivement, dans une cellule, dans un individu, dans une espèce, dans une population. Beaucoup plus qu'un seul catalogue. Et c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup mieux défendre les écosystèmes que les espèces propres. Même si certaines sont tellement emblématiques que je serais le plus malheureux du monde si elles s'en vont, bien entendu. Mais il faut bien expliquer aux gens que on est sur un système dramatique parce que chaque fois qu'on l'agresse, on s'agresse soi-même, en fait. On avait parlé des pêches profondes ici il y a quelques temps. Donc, tout à l'heure, on a dit elles disparaissent parce qu'elles sont surexploitées, pour celles qui sont d'intérêt économique. Ou alors, on va enlever la forêt dans laquelle elles se trouvent, ou on pollue l'océan dans lequel elles se trouvent. On détruit, on pollue, on surexploite. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on dissémine tout partout. Ça peut être dramatique.
Les fameuses espèces invasives.
Et enfin, le dérèglement climatique a bien un rôle aussi sur cette diversité biologique. Et encore une fois, ça a toujours changé depuis que la Terre existe. Le vivant est habitué à cela. Mais ça change beaucoup trop vite en ce moment. Et là, c'est dramatique, ce rapport du VF. Moi, j'adore. J'adore dans ce qu'il démontre, hein. Mais n'empêche que la force, c'est très puissant, parce qu'on démontre qu'en 45 ans, là, on parlait de 90%, 80% d'individus au sein de populations qui sont partis. Moi, je m'intéresse beaucoup à Madagascar. Vous savez très bien, quand l'humain découvre la grande île, il y a 2000 ans, il y a 91% de forêts sur Madagascar. 50% en 1950, 12% aujourd'hui. Alors, mais quelques 110 espèces de lémuriens, je sais pas, ils vont survivre. Alors, est-ce qu'on défend les lémuriens? Bien sûr. Ne serait-ce que pour des raisons éthiques et de responsabilité de l'humain vis-à-vis de ces lémuriens qui ne sont qu'à Madagascar. Mais en plus, ils ont un rôle aussi extrêmement important.
Et puis quand on survole Madagascar, ce qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps dans C'est pas du vent, on voit très bien que la terre sur les collines s'effondre dans les rivières, pollue les rivières. Donc les gens qui utilisent l'eau des rivières ne peuvent plus l'utiliser. Donc c'est ça aussi la perte de la
biodiversité. Et la misère humaine est plus grande tous les jours, c'est tout. C'est là. En fait, tout est lié. Hein, l'humain continuera. On n'a qu'une planète, hein, il ne faut pas qu'on l'oublie, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait il y a quelques siècles, lorsqu'on avait les grandes épidémies de peste noire ou les problèmes d'économie dramatiques en Europe? On est allé à un coup éthique et moral monstrueux, mettre en esclavage l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. On peut plus faire ça aujourd'hui, à part la place. Ah, c'est pas possible. On aurait envie, mais on peut pas. On n'a qu'une planète, on n'a pas l'énergie pour la quitter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on s'organise ensemble pour gérer ces questions-là. Et il faut beaucoup plus réagir que ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, ça fait 10 ans que je prêche, et c'est pire en 2014 qu'en 2010, et c'était pire en 2000 qu'en 2000. Donc il faut bien qu'on se retrousse les manches à un moment, et ce genre de document devrait être l'électrochoc pour nous faire agir encore plus, bien sûr.
Et à partir de ce rapport qui, en effet, Christophe Roturier donne des chiffres vraiment inquiétants, est-ce que vous constatez ce qu'on dit souvent dans cette émission, que ce sont les plus pauvres de la planète qui sont les plus impactés par cette perte de biodiversité?
Alors, l'indicateur planète vivante montre effectivement que la perte de biodiversité est plus forte sous les tropiques que sous les climats tempérés, et qu'elle est plus forte dans les pays à bas revenus que dans les pays à haut revenus. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement une grande inégalité aussi dans l'apparition de ces phénomènes.
Mais avec un problème très important qui est que les plus pauvres de la planète dépendent massivement de cette biodiversité.
On parlait de Madagascar tout à l'heure, l'essentiel de la population dépend de la nature pour vivre ou pour survivre. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui dépendent directement de la forêt pour vivre, que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour leur eau douce, que ce soit pour leurs médicaments, on l'évoquait tout à l'heure, pour trouver des fibres textiles. Donc la déforestation a aussi un impact direct sur la vie ou la survie de toutes ces populations qui dépendent directement de la nature. On a parlé tout à l'heure de la pêche. La pêche aujourd'hui, si je veux revenir à des critères directement économiques, c'est 660 millions d'emplois, hein, dans le monde, le nombre d'emplois qui sont directement liés aux produits de la mer. Si on continue sur la lancée sur laquelle nous sommes, je ne sais pas comment ces personnes vont continuer à pouvoir, pour certaines, vivre de la pêche, pour d'autres, avoir un emploi lié à ça, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 90% des stocks de poissons qui sont soit exploités à leur maximum, soit surexploités. Donc on voit bien que là, quel que soit l'exemple qu'on prenne, que ce soit la pêche, que ce soit la forêt, on voit bien qu'on atteint les limites de la planète avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la biodiversité, mais aussi sur l'homme. Et c'est sur l'homme directement en termes d'activité, de nourriture, d'emploi, mais aussi sur la santé, on l'a évoqué tout à l'heure. Juste un exemple, la maladie de Chagas, par exemple, en Amérique du Sud, est une maladie transmise par des punaises qui vivent sur des palmiers, dans la couronne des palmiers. Quand on a déforesté dans ces zones-là et qu'on a implanté massivement des palmiers à huile, on a aussi massivement développé cette punaise. Et aujourd'hui, c'est plusieurs millions de personnes qui sont infectées par cette maladie transmise par les punaises. C'est juste un exemple parmi X autres qu'on pourrait donner.
C'est la cause de mortalité de gens entre 15 et 40 ans. Un âge où on ne meurt pas normalement. Hein. C'est très important pour toute l'Amérique du Sud.
Voilà pourquoi la préservation de la biodiversité n'est pas un luxe. La communauté internationale s'organise timidement et la recherche continue à nous donner des outils pour enrayer cette perte de biodiversité. On en parle dans quelques minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.